Bonjour à chacun. Je crois que Jérès m'a bien présenté. Je rajouterai que je suis très heureux de ce matin pouvoir partager ce que Dieu a mis sur mon cœur pour ce jour de Pâques. Et vous allez voir, c'est peut-être un peu spécial, mais j'aimerais introduire en vous parlant du jour où je me suis émerveillé devant une salade. Quelque chose qui pourrait être banal, habituel, mais pour moi ça s'est révélé vraiment extraordinaire. Dans ce restaurant où je l'ai mangé, j'ai vécu une véritable expérience culinaire. Le chef avait choisi minutieusement chaque ingrédient, il les a préparés pour en faire ressortir des goûts puissants. Et puis il a fait un assemblage, produisant une véritable unité à partir d'ingrédients pourtant si divers. Tout cela a déclenché pour moi une véritable explosion de saveurs, au point où je me suis émerveillé devant une simple salade. Alors vous me direz, quel lien avec Pâques ? À Pâques, nous fêtons la résurrection du Christ. Mais est-ce que la Pâques est devenue quelque chose de banal ? Est-ce que nous nous émerveillons encore de la Pâques ? Si Christ est ressuscité, quel impact cela peut encore avoir pour nous, plus de 2000 ans après? Dans le texte que nous lirons, Éphésiens 2, l'auteur explique ce que ça change de croire dans la mort et dans la résurrection du Christ pour nous, en tout cas pour les lecteurs. Pourtant, il écrit à des chrétiens. Il connaissait déjà le sens de la Pâque. Mais il le fait pour qu'ils se souviennent et pour qu'ils savourent le merveilleux plan de Dieu qui culmine à Pâques. Ce plan, c'est l'Évangile, la recette divine pour sauver l'humanité, par la mort et la résurrection d'un seul homme, Jésus-Christ. Paul avait sûrement un piège qui, je pense, nous guette tous ou guette tout chrétien. Celui de faire de la bonne nouvelle, de l'Évangile, quelque chose de banal, une simple banalité qui ne produit plus émerveillement chez nous, ni même changement de vie. C'est peut-être votre cas si aujourd'hui vous ne connaissez pas réellement le sens de Pâques. Vous vous dites, qu'est-ce que ça peut bien changer, cet événement-là? Mais je confesse que c'est également un piège dans lequel je peux tomber chaque année, lorsque Pâques revient, mais également dans ma vie de tous les jours, lorsque je suis confronté à la réalité de l'Évangile. Je crois que c'est un piège de faire de l'Évangile une banalité qui nous guette tous, et plus particulièrement peut-être si nous sommes chrétiens de longue date. À Pâques, nous célébrons la mort et la résurrection du Christ. C'est l'événement qui permet la réconciliation du monde avec Dieu, et des humains les uns avec les autres. Il nous montre cet événement toute la beauté et la puissance de la grâce de Dieu pour nous, afin que nous puissions nous émerveiller ensemble et vivre une vie consacrée à Dieu et dans l'unité. J'espère que ce temps de prédication nous permettra de nous émerveiller à nouveau de l'œuvre de Dieu. Et on a déjà commencé par les beaux chants et ces textes qu'on a lus. Je vous propose en tout cas de le faire comme une découverte culinaire. Je vais vous présenter une recette digne des plus grands palaces parisiens. Le chef a 3 étoiles au guide Michelin. Cette recette a de quoi ébahir aussi bien ceux qui la découvrent pour la première fois que ceux qui l'ont déjà goûtée. Le plat a un nom, il s'appelle la puissance de la grâce. Et ce chef 3 étoiles, ce n'est autre que le Seigneur lui-même. Comme toute bonne recette gastronomique, elle se fait en 3 étapes. La préparation, pour commencer, préparation des ingrédients, le dressage et finalement, la dégustation. Avant de présenter cette recette, j'appelle Rachel qui va nous lire le texte de ce jour.
Quant à vous, Vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois, conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées. Et nous étions par notre condition même destinés à la colère, tout comme les autres. Mais Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par sa grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est pourquoi, souvenez-vous qu'autrefois, vous étiez identifiés comme non-juifs dans votre corps, appelés incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans leur corps par la main de l'homme. Souvenez-vous qu'à ce moment-là, vous étiez sans Messie, exclus du droit de cité en Israël, étranger aux alliances, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. En effet, il est notre paix. Lui qui des deux groupes n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur qui les séparait, la haine. Par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles, afin de créer en lui-même un seul homme nouveau à partir des deux, en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et ceux qui étaient près. À travers lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint pour le Seigneur. C'est en lui que vous aussi vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit.
Merci Rachel. Première étape donc de notre recette. La préparation des ingrédients. Le chef donne la vie. Le texte commence par « Quant à vous, vous étiez morts ». Conséquence des fautes des premiers lecteurs, de leurs péchés, de ce qu'ils ont mal fait face à Dieu. Les Éphésiens sont morts parce qu'ils se conforment au prince de la puissance de l'air, c'est-à-dire le diable. Mais pourtant, rapidement, Paul il commence à s'inclure en disant « nous ». Il ne laisse aucun doute, pas de possibilité de se dire que ce serait uniquement eux, les Éphésiens, eux-là, ce peuple païen, qui ne serait loin de Dieu. Lui-même, un juif pieux, il s'intègre dans ceux qui étaient morts spirituellement. Le problème est la nature humaine, au verset 3. La nature pécheresse. Tout homme est mort spirituellement, par nature, depuis la chute. Il désire vivre selon sa propre volonté. Il ne reconnaît pas le Seigneur, et cela le rend esclave du mal. La recette du chef commence mal. Il part avec des ingrédients pourris, contaminés, vont à être jetés. Quand on dit conscient du poids de nos fautes, je pense que c'est ça qu'il faut se dire. Mais heureusement, le chef, c'est le Tout-Puissant. Il a décidé d'utiliser ses ingrédients pourris pour sa recette 3 étoiles en redonnant la vie. Heureusement, il y a un « mais » au verset 4. « Mais nous étions morts » et plus loin, « il nous a rendu la vie ». Le constat de base est terrible, oui. Mais nous sommes voués, parce que nous sommes voués à une mort certaine, mais Dieu veut et peut, par sa puissance, nous donner la vie. C'est bien ce que nous avons vécu, nous tous, qui avons placé notre foi en lui. Alors comment est-ce qu'il rend la vie ? Est-ce que c'est en faisant des bonnes œuvres, comme veulent le faire croire beaucoup de religions ? Est-ce que c'est par son propre mérite que l'on pourrait retrouver la vie, franchir la fracture qui nous sépare de Dieu ? Non. Verset 8, « Cela ne vient pas de vous, c'est un don. » Et Paul redit deux fois, « C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Seule la puissance de Dieu peut nous faire passer de la mort à la vie. Et cette puissance, il l'a déployée pour ressusciter Christ et ainsi nous faire ce cadeau, en nous associant à la mort et la résurrection de Jésus, nous pouvons être sauvés. Nous sommes sauvés. Parce que Christ est mort et ressuscité, alors nous aussi, bien que morts spirituellement, nous pouvons avoir la vie. Et cette vie, possible par la foi, est une vie de bonnes œuvres, au verset 10. Il y a un lien direct entre l'appel que nous avons reçu et le fait d'avoir une conduite consacrée au Seigneur. Parce que nous sommes passés de la mort à la vie, alors nous voulons vivre réellement, conformément et de manière consacrée à notre Sauveur. Finalement, Jésus, par sa mort, sa résurrection, que nous fêtons à Pâques, résout trois problèmes liés à la nature pécheresse de l'homme. L'homme pécheur est mort, mais l'homme sous la grâce est vivant en Christ. L'homme pécheur vit sous le pouvoir du diable, mais l'homme sous la grâce vit maintenant en présence du Christ, au-dessus de toute puissance. L'homme pécheur est rebelle à Dieu, mais l'homme sous la grâce est créé pour de bonnes œuvres. C'est la transformation que produit la puissance de l'Évangile, la bonne nouvelle de la Pâque. Et cela pour tout être humain qui place sa confiance en Christ. Dieu redonne la vie aux ingrédients qui étaient pourris. En s'associant à la résurrection de Christ, les ingrédients de la recette sont renouvelés, ressuscités. Et alors, on commence déjà à saliver. Mais la recette du chef, elle n'est pas encore finie. Pour faire un grand plat, il faut passer au dressage. Un assemblage divin. Paul s'adresse à des chrétiens d'arrière-plan païens, c'est-à-dire non-juifs. Ils sont considérés comme loin, car ils ne connaissaient pas les promesses de Dieu, alors que les Juifs, eux, grandissaient en ayant la promesse d'un Messie, d'un libérateur, et l'espérance de vivre en sa présence. Paul parle également d'un mur entre Juifs et non-Juifs. C'est à la fois un mur littéral, qui était présent dans le Temple, et puis des règles qui interdisaient les Juifs de s'assembler avec les païens, mais c'est aussi, au verset 4, la haine qu'il pouvait y avoir entre eux. Je crois qu'aujourd'hui aussi, on peut constater le mur de haine qui brise si facilement les relations humaines. Il n'y a qu'à mettre les informations pour voir que les relations humaines se brisent si facilement, et parfois pour rien. C'est pourquoi la croix de Jésus-Christ vient aussi rétablir la paix. Christ réconcilie les nations en formant un seul groupe. Par sa mort et sa résurrection, il abolit les règles qui séparaient les Juifs et les non-Juifs. Dieu établit une nouvelle alliance avec toutes les nations. Un nouveau temple est créé, mais celui-ci est sans mur à l'intérieur. Il est constitué d'hommes et de femmes, juifs et non-juifs, ayant bénéficié de la grâce divine. Le Seigneur rassemble dans son Église les croyants de toute nation, de toute culture, avec des arrière-plans complètement différents. Et c'est pour ça qu'on a un poteau de la paix avec différentes langues qui est juste devant l'église depuis hier et qui a été inauguré. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à passer le voir à la fin du culte. Ainsi, ceux qui étaient près, c'est-à-dire les juifs, et ceux qui étaient loin, les non-juifs, sont tous deux en Jésus, ont tous deux en Jésus accès auprès du Père, par son esprit. Les ennemis sont réconciliés, car ils sont même adoptés dans une même famille. C'est une réalité merveilleuse. Des ennemis sont maintenant un corps, une nation, une famille, un temple pour celui qui nous a sauvés de la mort. Est-ce que nous nous émerveillons encore de l'Église? Ou est-ce que nous bâtissons plutôt de nouveaux murs entre nous? Comparaison, moquerie, conflit, manque d'atomes crochus, on râle de l'organisation de l'Église, de tous ces petits murs qui sont bâtis entre chrétiens, plutôt de s'émerveiller ensemble de ce que Dieu a fait. Au chapitre 4 de la lettre d'Éphésiens, on peut lire « Je vous encourage donc à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu, en toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour, efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Par sa conduite, le chrétien devrait vivre l'unité avec ses frères et sœurs. Rappelons-nous que nous sommes réunis en Christ pour former son temple. Nous recevons l'Église. Elle est une grâce qui s'attache à l'œuvre de salut de Dieu, à l'œuvre du Christ, à la Pâque. Nous ne sommes pas sauvés seuls, mais nous sommes sauvés dans un peuple nouveau, avec l'ensemble des croyants en Christ. Ça fait partie de la recette. C'est l'assemblage des aliments qui fait le plat du grand chef. L'Église ne devrait pas être quelque chose de banal ou de même décourageant. Elle est le projet de Dieu. Émerveillons-nous de cette réalité, de l'unité que nous avons en Jésus. C'est l'unité qui nous a acquis à la Pâque. Autrefois morts, nous vivons maintenant unis ensemble avec Christ. Le plat est prêt. Le chef a préparé les ingrédients en leur donnant la vie. Il a créé un dressage avec une diversité d'ingrédients qui s'accordent parfaitement. Alors, passons à la meilleure étape, enfin je crois, la dégustation. Savourons la puissance de la grâce de Dieu. Attention, explosion de saveur garantie. Vos papilles sont en extase, émerveillées devant la bonté de cette recette. C'est en tout cas ce que Paul veut créer dans tout le texte. Il ne lésine pas avec un vocabulaire d'abondance pour parler de l'Évangile. Verset 4, « Mais Dieu est riche en compassion à cause du grand amour dont il nous a aimés. » Verset 5, « C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Verset 7, « Afin de montrer l'infinie richesse de sa grâce et par la bonté manifestée en nous, en Jésus-Christ. » Et verset 8 encore, « En effet, c'est par grâce que vous êtes sauvés. » C'est un don de Dieu. Pâques, c'est le souvenir de l'avalanche de grâce que nous avons reçue en croyant dans la mort et la résurrection de Christ. Paul veut que nous restions ébahis devant l'action du Tout-Puissant. Voici la réaction que Paul voudrait que nous ayons, avec des smileys. Et même pour décrire Satan, le vocabulaire est peu commun dans l'écriture de Paul. Il le nomme « prince de la puissance de l'air ». En fait, il veut nous faire lever les yeux au ciel. C'est au-dessus que ça se passe. Il y a quelque chose de plus grand, de plus haut. Au chapitre 1 et verset 20, on voit que Christ est assis à la droite de Dieu, dans les lieux célestes, au-dessus de toute puissance, de toute souveraineté, de tout nom qui peut être nommé. Paul veut montrer que Christ règne au-dessus de tout. parce qu'il est ressuscité. Dieu a vaincu le prince de la puissance des airs. Et nous qui étions morts, 6 pieds sous terre, nous sommes ressuscités et élevés, assis dans les lieux célestes en Jésus. Le changement par rapport à notre ancienne condition est radical. Il y a de quoi savourer. C'est juste waouh ! L'évangile appliqué à nos vies produit un vrai changement d'identité qui se voit aussi dans nos relations les uns avec les autres. Dieu nous réconcilie ensemble de manière grandiose. Nous sommes une famille, un temple céleste élevé dans les cieux. Imaginez tout ce qui peut diviser l'humanité qui serait éradiqué complètement. C'est le projet de Dieu pour l'Église. Le Seigneur réunit des gens de toute culture, de toute époque, sans mur pour les séparer. Quelle image grandiose ! La puissance de la grâce divine est merveilleuse, mes amis. Pâques n'annonce pas quelque chose de banal, ce n'est pas quelque chose d'habituel. L'Évangile, c'est un peuple nombreux de morts qui reviennent à la vie. On voit cette image dans Ézéchiel 37, une vallée d'ossements desséchés qui reprend la vie. Cela ne doit pas nous laisser indifférents, d'autant plus que le premier qui ressuscite réellement pour l'éternité, c'est le Christ. C'est tellement puissant, tellement grandiose, extraordinaire, merveilleux, que nous voulons y retourner constamment. Cette réalité devrait également transformer nos vies. Nous avons besoin de savourer, seuls devant Dieu, mais également les uns avec les autres, ce qu'il a fait. De nous souvenir que Pâques nous permet de vivre cette réalité. Nous étions morts, mais nous vivons aujourd'hui unis ensemble avec le Christ. En fait, c'est un principe clé pour la vie chrétienne, et d'autant plus en ce temps de Pâques. Le chrétien qui grandit retourne constamment à la puissance de la grâce de Dieu. Et ce n'est pas par obligation, mais c'est parce qu'il a goûté et que c'était vraiment extraordinaire. Encore plus que cette salade à laquelle j'aimerais revenir de temps à autre. L'Évangile, c'est bien plus grand que ça. La bonne nouvelle annoncée à Pâques, ce n'est pas quelque chose de banal. C'est quelque chose que le chrétien ne connaît pas seulement dans sa tête, mais qu'il chérit dans son cœur, afin de le laisser pénétrer et transformer sa vie. Le chrétien l'incarne dans tout ce qu'il dit, et ce qu'il fait. C'est la nourriture qui lui permet de vivre une vie consacrée à Dieu. Et c'est la nourriture qui lui permet de vivre une vie dans l'unité avec les autres membres de l'Église. Oui, aujourd'hui à Pâques, nous voulons savourer la bonne nouvelle de la résurrection du Christ. Mais chaque jour, prenons une grande cuillère de ce plat savoureux de l'Évangile. Et souvenons-nous que ce n'est que par la puissance de la grâce que nous pouvons vivre encore aujourd'hui. Mes amis, en ce jour de Pâques, savourons la puissance de la grâce de Dieu qui nous a ressuscités avec Jésus. Autrefois morts, nous vivons aujourd'hui unis ensemble avec le Christ. Merci pour votre écoute.